L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'EM, l'émission quotidienne de Radio Évasion en direct, à midi, rediffusée à 18h. Les journées du patrimoine, c'est comme tous les ans, à la mi-septembre, donc c'est ce week-end. Et on va en profiter pour retrouver notre partenaire Bretagne Culture Diversité, qui travaille depuis plusieurs mois avec Le Fou sur le patrimoine immatériel local. Il y a eu un collectage de témoignages, notamment sur le patrimoine de la cuisine et de l'alimentation. On verra donc ça avec Bretagne Culture Diversité, on verra ce que nous apprend ce patrimoine du passé, mais ce que nous mangeons se conjugue également au futur. L'avenir s'annonce parfois sombre sur fond de bouleversements profonds du climat, du vivant en général et donc de l'agriculture. Et le parc naturel régional d'Armorique a donc décidé de construire un projet agricole et alimentaire de territoire, un PAT. Pour l'association Bretagne Culture Diversité, c'est Elena Tataruche et Angelina Trappi qui sont chargées de mission, qui sont autour de notre table. Et pour le parc d'Armorique, c'est Thibaut Thierry, le directeur du développement. Bonjour à vous trois.
Bonjour.
On va commencer par le passé, on va être logique et chronologique. Mais Thibaut a peut-être son mot à dire sur cette question générale. Au-delà de l'aspect gourmandise, qu'est-ce qui est intéressant dans le fait de collecter et d'étudier le patrimoine culinaire, alimentaire? Qu'est-ce que ça révèle?
Ah là là, vaste
ouais,
question.
On pourrait tenir une heure, je pense.
Bon, je vais essayer de faire court, mais ce qui est intéressant, notamment, c'est que c'est un patrimoine du quotidien qui fait partie de l'identité des personnes. Il nous accompagne dans de nombreux moments de la vie. Il dit beaucoup, en effet, de notre passé, mais également de notre présent et puis de notre futur. L'étudier, ça permet aussi des fois de défaire quelques clichés que nous pouvons avoir. Et ça révèle une grande diversité également.
On peut voir même, localement.
Même localement, on verra ça.
Oui, on va voir ça dans quelques
minutes. Même localement,
minutes, ouais.
Parce que ça révèle souvent la créativité des personnes qui vont se réapproprier des recettes, qui vont les faire évoluer. Et on voit bien que c'est un patrimoine qui est vivant et qui n'est pas figé, justement.
Et est-ce que c'était spontanément cité, ce patrimoine culinaire, dans l'enquête, ou est-ce qu'il fallait quand même poser la question? Parce que c'est vrai que le patrimoine vivant, c'est déjà pas forcément évident pour les gens, mais alors en plus, est-ce qu'ils pensaient spontanément à des plats, à de la cuisine?
Oui, c'est revenu assez rapidement dans les questions. Alors si au niveau des réunions publiques, on a, pour aider, guider un petit peu, on donne quelques grandes catégories du patrimoine vivant, dont le patrimoine culinaire, mais c'est venu assez spontanément au fou.
Alors Thibaut Thierry, c'est un volet quand même qui est intéressant pour le parc, le passé de notre patrimoine culinaire.
Bah effectivement, le parc naturel a toujours vocation à mettre en avant les patrimoines dans leur globalité sur le territoire et à les projeter effectivement vers l'avenir, à voir comment on peut se les réapproprier, comme l'évoquait Elena, et comment on peut en faire de nouvelles choses à l'avenir, tirer profit aussi de l'ensemble des habitants, des acteurs locaux que l'on a derrière ou devant ce patrimoine.
Donc ça sera intégré dans l'élaboration du projet alimentaire agricole de territoire, enfin.
Oui, tout à fait. Il y a un volet qui lui est consacré.
Bon, on y reviendra tout à l'heure. Le patrimoine culinaire de Bretagne, vaste question. Elena, qu'est-ce qu'on peut en dire?
Bon, alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que le patrimoine culinaire est un élément important de l'image de la Bretagne. Bon, un peu comme partout, ce patrimoine, il est né au départ de la rencontre entre des produits disponibles sur le territoire et des habitants, avec leur créativité, leurs compétences, leur histoire. Donc historiquement, la population bretonne était majoritairement paysanne, et le sol étant trop pauvre pour produire des céréales pour faire du pain, donc c'est le sarrasin qui était utilisé pour préparer des bouillies, des fards en sac, des crêpes, qui serviront de substitut de pain, et qui vont constituer la base de l'alimentation bretonne et que l'on déguste encore aujourd'hui.
On sait depuis quand on utilise le sarrasin en Bretagne?
Alors, le sarrasin, je crois que les traces archéologiques doivent dater d'avant le XVIe siècle. Je ne sais plus exactement, mais bon, il y a un cliché qui est transmis que ce serait la duchesse Anne qui aurait importé...
Toujours elle.
Mais non. Déjà, la Bretagne n'est pas la seule à cultiver du sarrasin.
Déjà, oui.
Et les dates, et je crois que c'est au Xe siècle qu'on retrouve peut-être les premières traces de sarrasin.
Bon, alors donc le sarrasin, ok. Donc des plats finalement assez rustiques, enfin paysans qu'on pourrait dire, c'est ça. Je crois qu'il y avait d'autres céréales qui étaient utilisées, non? Justement, avant le blé.
Oui, après, c'est...
La fameuse bouillie d'avoine, par exemple, est-ce que c'est du patrimoine, quand même ?
Oui, bah, c'est du patrimoine à partir du moment où, dans le patrimoine culturel immatériel, à partir du moment où les gens considèrent que c'est du patrimoine pour eux, ça peut entrer dans la catégorie de patrimoine vivant, tout à fait.
Donc, les crêpes, les galettes, il y a eu en plus une expo, tout un travail qui a été réalisé là-dessus. Bon, ça, c'est indéniablement du patrimoine breton. Mais est-ce qu'il y a d'autres patrimoines culinaires ou alimentaires, peut-être moins évidents ?
Après, en fait, ça va être plutôt dans les... On va dire qu'il y a ces grandes familles-là. Mais après, il va y avoir des variations locales, un petit peu, de ces plats. Que ce soit au niveau de la recette, mais aussi au niveau des dénominations. Au niveau, entre la Haute-Bretagne et la Basse-Bretagne, on parle de crêpes ou de galettes. En fait, les deux dénominations sont bonnes, mais ça dépend de l'endroit où on se situe. Après, on verra plus localement, comme au Fou, il y a encore des déclinaisons qui se font.
Et on a l'impression qu'en Bretagne, il y a moins de plats de viande. Enfin, il y a à part le kikafar, c'est encore, il est très localisé. Je me trompe ou
Je pense que c'est... Alors ça, c'est arrivé plutôt au niveau du 19e siècle. Il y a eu pas mal d'évolutions au niveau de l'agriculture. Là, on a commencé à produire du blé, du seigle, des pommes de terre. L'élevage aussi qui va se développer. Je pense notamment qu'en comparaison avec la Normandie, où il y a eu plus d'élevage, des grandes prairies riches d'herbes vertes qui ont permis ce développement-là. En Bretagne, les sols étant plus pauvres, on était plutôt sur des polycultures avec un petit peu d'animaux et plus de céréales.
Et la question que je pose toujours, je la repose, pourquoi n'avons-nous pas de tradition fromagère en Bretagne ? On n'a toujours pas la réponse.
Non, peut-être une des pistes, après je ne suis pas spécialiste, mais une des pistes c'est notamment liée à l'élevage d'animaux qui produisent du lait, qui était moins développé, et donc ça s'est moins développé.
Et Thibaut tirait une idée, ouais. Il sait.
Non, c'est vrai que sur les produits laitiers, on a par exemple le gros lait qu'on retrouve dans le Finistère historiquement et qui aujourd'hui d'ailleurs est relancé par des producteurs, notamment qui s'impliquent sur les races domestiques bretonnes. Je pense à la Bretonne pinoire, mais aujourd'hui la froment du Léon, l'armoricaine. Et on a un produit qui peut-être demain deviendrait une nouvelle AOP en Bretagne dans les 5 à 10 ans à venir. Quoi. Donc il y a malgré tout des produits laitiers qui peuvent être intéressants à valoriser, sans compter bien sûr toutes les tomes qu'on peut trouver dans les monts d'Arrée par exemple.
Qui sont plutôt nouvelles, récentes en fait. Donc on a exploré un peu le patrimoine culinaire de la Bretagne en général. Alors le Fou, alors c'est Angelina, non c'est Elena Qui est-ce qui va nous parler de ce qui est ressorti du patrimoine culinaire du Fou ?
Julia pourra compléter si tu veux. Ou...
Pas de souci. Mais on fait comme ça.
Donc c'est ça, au Fou d'un côté, on va retrouver un patrimoine culinaire qui fait partie un peu du fond commun qu'on retrouve en Bretagne avec les crêpes, qu'on prépare dans le cadre privé, où on va à la crêperie, on retrouve lors des événements festifs. Il y avait aussi le savoir-faire autour du cidre qui est ressorti, même s'il n'y a plus de producteurs professionnels aujourd'hui sur la commune, mais c'est également ressorti. Et par ailleurs, on retrouve un patrimoine culinaire qui est un peu plus spécifique au territoire, même si ça s'inscrit aussi dans des grandes familles. Donc, il y a le pastéo qui est ressorti.
Le fameux,
qui est donc une brioche, un pain enrichi.
On dit aussi gâteau des gras, c'est ça ? Enfin, c'est faux de dire gâteau des gras ou c'est...
Brioche des gras, nous, ouais. Le terme qui est ressorti, c'est des brioches des gras.
Sachant qu'il y avait d'autres gâteaux des gras ailleurs, quoi. Enfin, pas seulement au Fou.
Exactement. Et lors de la restitution publique, il y a aussi des personnes qui nous ont parlé du phare noir, donc un phare au blé noir, qui est également cuisiné, préparé sur la commune.
Mais du phare noir sucré, et non pas le farce qu'on met dans le kikafar.
C'est ça, oui.
Ça serait très local.
Mais il semblerait. Alors, c'est arrivé à la fin de l'enquête, mais s'il y a des personnes volontaires pour travailler sur le sujet, allez-y.
J'avoue que c'est une faouiste qui m'a donné cette recette-là, donc il y a une piste. Et qu'est-ce que vous allez en faire lors de la journée des journées du patrimoine au Fou de ce week-end ?
Du coup, je vais reprendre la main sur ça.
Angelina Trappi.
Du coup, pour les journées européennes du patrimoine, il faut savoir que ça s'inscrit dans la continuité du projet qui a été mené par Elena. Et c'est vraiment en partenariat donc, entre l'association Bretagne Culture Diversité, il y a aussi donc, le réseau des petites cités de caractère de Bretagne, mais aussi la commune, bien évidemment. Et donc à ce sujet, on va organiser un petit atelier culinaire autour du pastéo. Donc c'est organisé par l'association Tenzorio Broarfaou. Et donc ce sera tout le week-end, du 16 et 17, donc ça approche à grands pas. Et donc ce seront des ateliers qui seront organisés à partir de 10h. Donc il y aura des plages horaires de 10 à 13h et de 15h à 18h.
Donc chaque atelier dure 3 heures. Non, ou alors
non, ce sont des... Ouais, en fait, c'est des petits groupes de 10 personnes en binôme. Donc, ça convient autant aux adultes qu'aux enfants. Voilà, bien sûr, accompagnés, évidemment. Et du coup, donc, y a une réservation qui est obligatoire.
Ah oui, vaut mieux.
Voilà, donc auprès de l'association.
Tenzoriu Brouwer Fau.
Exactement. Mmh. Après, voilà, les informations sont disponibles sur la brochure qui va être distribuée donc, dans les commerces, les services, à l'office de tourisme aussi, c'est important, au PNRA aussi. Et du coup, il y aura aussi donc, tout ça disponible sur les sites internet, etc. Voilà.
Et on fera du pastéo, vraiment, quoi.
Enfin, oui, c'est ça. Ce sera l'occasion de se préparer, on va dire, un peu pour la prochaine période du coup des gras. Donc, c'est environ mi-février, c'est un peu avant le carême.
Et on s'entraîne.
Voilà, on s'entraîne, on s'amuse. Voilà, on en profite. C'est un moment convivial de partage.
Donc. Et ça sera le pastéo, enfin, l'un des pastéos du fou. Parce qu'en fait, c'est ça qui est intéressant avec le pastéo, c'est qu'il y a autant de recettes que de gens, quoi. C'est ça.
Complètement.
C'est ça.
Et c'est une zone géographique, le pastéo. Ça, c'est quoi, à peu près, la zone géographique du fou, du pastéo?
Ça reste quand même la région du Fou.
Autour du Fou, ouais. Après, c'est, évidemment, ça dépasse les frontières administratives de la commune, mais ce n'est pas forcément très arrêté. Enfin, je sais qu'à Anvec, on en fait aussi.
Par à Pont-de-Buis, il y a le pastène, enfin, c'est la même chose.
Alors, qui est un peu différent, c'est plutôt un chausson fourré aux pommes et aux raisins, oui. Mais bon, avec une même pâte. Donc, voilà.
Même je crois que ça peut aller jusqu'à Châteaulin, il me semble. Mais bon, d'accord. Donc là, ça sera vraiment déjà celui du fou et ça sera des variantes. Enfin, il y aura des variantes où ça sera en fonction de celles et ceux qui organiseront l'atelier,
en fait,
j'imagine.
Ouais, ça va être la recette qui m'a été transmise par Chantal Gouet, que je remercie à ce micro. Et donc, c'est sa recette qu'on va utiliser. Mais après, oui, comme tu le disais, il y a autant de recettes que de... Non, autant de pastéo que de recettes que de personnes, voilà.
Et parfois, ces recettes sont secrètes. Voilà, on est bien obligé de... Voilà, de faire avec. Le parc d'Armorique, Thibaut Thierry, directeur du développement. Donc le parc d'Armorique, évidemment, s'intéresse à tout ce qui est question agricole et alimentaire. C'est pour ça que c'est d'ailleurs un PAAT, parce que d'habitude, les projets alimentaires de territoire, quand c'est des communautés de communes, c'est juste alimentaire. Enfin, il manque la partie agricole, on dirait.
Bah, c'est vrai que depuis que le parc existe, il y a un travail de tous les jours auprès de la profession agricole et de l'ensemble des acteurs qui gravitent autour. Donc c'est vrai qu'on voulait mettre en avant aussi ce qui fait l'amont finalement de toutes les filières alimentaires qu'on va retrouver sur le territoire, qu'elles soient très courtes en vente directe jusqu'à des filières plus longues qui ont quand même fait la renommée du Finistère. Oui, notre PAAT voilà, va s'intéresser, on a l'habitude de dire, de la fourche à l'assiette. Hein. L'idée, c'est vraiment de pouvoir mettre en cohérence en fait, tous les acteurs et toutes les actions en faveur d'une agriculture et d'une alimentation durable. Et c'est vraiment le message que le parc souhaite porter au travers de ce programme, en associant l'ensemble de la profession, bien sûr, mais aussi tous les acteurs qui vont parler à un moment donné d'alimentation, jusqu'à nos collègues de BCD, par exemple, pour la mise en valeur du patrimoine. C'est aussi un élément important du PAT.
Et ça, c'est le parc qui décide, qui va se doter d'un PAT ou est-ce que tous les parcs régionaux ont ça?
En fait, le parc a candidaté à un appel à projet national en 2021 qui proposait à des territoires de s'emparer de ces questions-là. Et ce qui est intéressant, c'est que ça peut être à toutes les échelles, de la commune jusqu'à un département, par exemple. Le département du Finistère porte actuellement un PAT. Vous en avez un également au niveau de la communauté de communes de la presqu'île de Crozon-le-Maritime, avec qui d'ailleurs on assure vraiment une complémentarité dans les
actions.
Oui,
c'est la question que j'avais posée, autant travailler ensemble.
Exactement, puisqu'on a un territoire en commun. Et puis, voilà, c'est par exemple celui du parc, qui est une dimension un peu plus large. L'idée, c'est vraiment aussi de mettre en cohérence, de faire participer et d'échanger aussi sur les bonnes pratiques. Je sais que par exemple on va travailler sur la formation des cuisiniers dans les cantines. Bah, c'est intéressant qu'un cuisinier de Plounéour-Ménez par exemple parle avec celui de Rosnoën. Enfin voilà, il y a des choses comme ça qui peuvent aussi être intéressantes à valoriser et à accompagner.
Et il y en a d'autres, oui, il y a d'autres communes ou communautés de communes du parc qui ont un PAT
Alors aujourd'hui, il n'y a que la communauté de communes, d'après ce qu'il est au Maritime. Après, il y a des réflexions qui sont portées par d'autres EPCI, d'autres communautés de communes, pardon, notamment sur les questions climatiques, par exemple. Comment l'alimentation, comment l'agriculture aussi, qui aujourd'hui quand même est un émetteur important de gaz à effet de serre, comment on l'implique aussi dans une stratégie territoriale. Donc il y en a beaucoup qui y pensent et je pense qu'on en aura d'autres à venir. Quoi. Voilà. L'idée c'est vraiment au-delà du programme lui-même, c'est vraiment d'initier, de mettre en cohérence tous les projets en faveur de l'agriculture et de l'alimentation durable.
Et ça dure combien de temps, un projet comme ça ?
Alors je dirais qu'il n'a pas forcément de fin. Après, là, on a un programme qui fait que sur 3 ans, vous devez établir un diagnostic, engager des premières actions. Mais voilà, l'idée, c'est de le poursuivre et le parc s'y emploie à la fois au quotidien et puis à l'avenir dans sa prochaine charte également.
Dans la charte du parc, dont on parlera plus tard, sans doute. Voilà. Et Bretagne Culture Diversité, vous avez été associé à ce projet alors ?
Alors pas encore.
Pas encore, mais ça va venir.
Mais ça va venir. Et notamment dans le cadre de la charte, on va travailler ensemble sur les questions du patrimoine culturel immatériel et donc forcément le patrimoine culinaire, l'alimentation seront abordés.
Qu'est-ce qui a déjà été fait dans le cadre du projet alimentaire de territoire comme action concrète ? Qu'est-ce qu'on peut rappeler ?
Alors il y a plusieurs axes de travail. Il y a un premier travail autour des pratiques agroécologiques, l'accompagnement des éleveurs sur les mesures agri-environnementales par exemple, qui est mené par le parc depuis longtemps, mais qu'on a aussi réinjecté dans le projet. Il y a les questions autour de l'installation, de la transmission. On sait qu'on a des enjeux très importants à venir dans les 10 prochaines années. On a la moitié des chefs d'exploitation qui partent à la retraite, donc comment on accompagne sur le territoire ? Notamment sur une terre d'élevage, qu'est le parc, avec des outils agricoles qui sont très dimensionnés, etc. Comment on accompagne tout ça ? Je pense par exemple à l'espace test agricole qu'on mène sur le domaine de Ménesmeur, qui accompagne des porteurs de projets et qui les initie, qui leur met le pied à l'étrier, on va dire.
En gros, on leur donne des terres, enfin plus une aide technique, c'est ça, pour démarrer leur élevage.
Oui, tout à fait, oui, c'est exactement ça.
Et actuellement, il y a des moutons, c'est ça, il y a toujours deux éleveurs ou c'est fini peut-être ?
Alors, il y a 2 porteurs de projet, mais qui vont bientôt s'envoler de leurs propres ailes sur leur projet d'installation. Donc, voilà, on les accompagne jusqu'à la fin de. Voilà,
donc, c'était d'un côté des moutons et de l'autre côté volailles et abeilles.
Plus de diversification, effectivement, des œufs, du miel, etc. Donc, voilà, des parcours qui sont différents, mais qu'on choisit d'accompagner.
Et il y a des nouvelles et des nouveaux qui vont arriver bientôt.
On le souhaite, ouais, effectivement.
Ouais. L'appel est lancé. Allez, hop.
Allez, on y va.
Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Il y a eu la maison de l'alimentation itinérante, c'est
oui,
ça ?
Oui, peut-être pour être en lien avec notre sujet du jour. Oui, la maison de l'alimentation itinérante qui s'est déplacée l'année dernière à la fois sur Crozon et sur Huelguat et qui nous a permis d'être vraiment au cœur des habitants avec une petite tiny house qui intéressait d'ailleurs beaucoup les passants.
Et de l'association Au goût du jour.
Voilà, exactement. Et dans laquelle on a pu proposer à la fois de l'information sur le bien manger, sur la restauration durable, mais aussi des cours de cuisine, de façon très pragmatique, comment on peut cuisiner ses restes, comment on peut cuisiner peut-être avec une alimentation plus portée sur le végétal, comment on s'alimente et comment on s'approvisionne localement. Pour trouver nos fameux produits de qualité en circuit court. Donc,
on a de quoi faire en plus sur le parc d'Armorique.
On relève à peu près 60 d'initiatives, que ce soit des marchés à la ferme, des épiceries, des marchés de plein vent, etc. Enfin, tout autant d'initiatives qui sont intéressantes à valoriser vers les habitants.
Et on peut trouver d'ailleurs cette carte des producteurs ou des je ne sais plus exactement.
Oui, tout à fait. Oui, on l'a à la faveur d'un grand pique-nique que l'on a mené à Daoulas avant l'été. On a mis en avant effectivement l'ensemble de ces initiatives sur le site internet du parc qui sont à retrouver. Donc j'invite les auditeurs à aller y jeter un coup d'œil.
Et les scolaires aussi sont impliqués.
Oui, effectivement, les scolaires, ce sont à la fois les consommateurs d'aujourd'hui et de demain. Donc, on a une préoccupation importante vers ces publics. Depuis l'école, qui est un lieu important, mais toutes les questions de restauration scolaire, on a engagé un appel à projet scolaire autour de l'alimentation, mais aussi dans les foyers, parce que c'est aussi, finalement, la restauration scolaire, c'est que qu'une part des repas qui sont pris. Donc, et je pense que dans les foyers, ce qui est intéressant aussi, c'est toute la dimension conviviale aussi qu'on peut avoir à l'échelle de sa famille, de ses amis autour de l'alimentation et où on peut déguster un bon pastéo par exemple.
Quels sont les enjeux en fait ? On a parlé du renouvellement de la population des agricultrices et agriculteurs. Quels sont les autres enjeux en matière d'alimentation pour le parc d'Armorique ?
Alors il est certain que les questions climatiques nous occupent beaucoup et c'est vrai que derrière ce sont les systèmes agricoles qu'on peut réinterroger, accompagner vers des pratiques qui seraient peut-être plus plus résilientes, notamment sur une meilleure séquestration du carbone. C'est un peu technique, mais de façon très simple, les prairies naturelles, par exemple, sont des très bons collecteurs de carbone et qui est intéressant de valoriser. Et c'est bien par les systèmes laitiers, par exemple, ou allaitants, qu'on peut valoriser et pérenniser ces prairies.
Oui, parce qu'on dit que l'élevage émet du carbone, mais en fait, ce n'est pas n'importe quel élevage qui émet du carbone, c'est l'élevage en étable, enfin intensif, quoi, en fait.
Oui, mais l'élevage bovin, même sur une prairie, émet du carbone. Mais l'idée, c'est de considérer aussi tous les milieux qui sont entretenus par l'élevage, que ce soit, bien sûr, les prairies naturelles, comme je l'ai dit, mais le bocage, tous les milieux qui vont être un peu connexes aussi. Et donc, c'est toujours une question de bilan, finalement.
Oui, parce qu'une prairie absorbe du carbone.
Voilà, voilà. C'est ça qu'il faut savoir. C'est vraiment un puits de carbone important, au même titre qu'on peut aussi avoir des tourbières ou les forêts. Hein. Mais donc, on sait que derrière un système agricole, on peut avoir aussi cet effet sur le climat. Donc, voilà, c'est intéressant à valoriser et à accompagner aussi auprès des éleveurs qui n'en ont pas toujours quelquefois conscience, d'ailleurs.
Et il y aura peut-être des apparitions. Enfin, moi, je pense toujours à la vigne. J'ai peut-être tort, mais enfin, je crois qu'il y a des vignes qui s'installent petit à petit, même sur le territoire du parc.
Oui, alors effectivement, il y a des cultures végétales qui peuvent apparaître. Donc la vigne, on a quelques projets d'ailleurs qui tapent à la porte du parc quelquefois. Ça nous arrive. Après, je pense que c'est aussi notre empreinte écologique, on va dire, au travers même de l'alimentation, qui doit être réinterrogée. Donc comment on va peut-être poursuivre bien sûr la consommation de viande, mais peut-être en diminuer la quantité. Donc derrière, quelles influences et quelles conséquences ça a sur l'élevage, mais aussi des nouvelles filières végétales qui sont d'ailleurs très demandées dans la restauration collective, hein, notamment pour des menus végétariens une fois par semaine, etc.
Ah oui, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir par exemple comme nouvelle culture dans le territoire du parc
à l'échelle Bretagne, on va dire, et Grand Ouest, il y a des travaux qui sont menés notamment par la Chambre d'agriculture sur des nouvelles légumineuses qui pourraient être développées pour alimenter que ce soit des lentilles, des pois, enfin voilà. Donc nous, on aura une action dans le PAT pour évaluer un peu l'opportunité sur le territoire de ces filières. Bien sûr, on n'oublie pas les autres filières végétales. Je pense au maraîchage, je pense aux fruits aussi, hein, qui sont très demandés par les consommateurs. Donc, on a un patrimoine fruitier à conserver, à valoriser. Il y a peut-être des variétés anciennes qui sont intéressantes à mettre en avant, etc.
Oui, bah oui. Elena Tataruche ou Angelina Trapi, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus sur les fruits ? On n'en a pas parlé, les fruits bretons.
On n'en a pas parlé, non. Bah alors. Pour ce qui est du patrimoine culturel immatériel, c'est vrai que ce n'est pas le fruit en lui-même qui va faire patrimoine culturel immatériel, mais plutôt tous les savoir-faire et les pratiques qu'il y a autour. On parlait de la fourche à l'assiette, là c'est un peu peut-être de la greffe à l'assiette, je ne sais pas. Mais sur un autre territoire, on travaille aussi la Châtel-Audrin-Plouagate, qui eux ont une variété locale qui s'appelle la Rainette du Châtet, qui a failli disparaître, et un collectif d'habitants aussi s'est saisi.
C'est une pomme, je suppose.
Voilà, oui, c'est ça, pardon, ouais, qui est ouais. Une pomme, variété de pomme qui a failli disparaître. Et voilà, la population s'en est saisie et a voulu la sauver. Et aujourd'hui, ça recommence un petit peu à s'implanter sur le territoire.
Mais en termes de patrimoine immatériel, lié aux fruits, moi, je pensais j'ai découvert qu'à l'Opérec, par exemple, il y avait des fêtes de la cerise. Enfin, la cerise était un fruit extrêmement important qui semble avoir complètement disparu, à part les arbres un peu sauvages. Mais est-ce que vous avez des éléments là-dessus à Bretagne Culture Diversité sur les... tout ce qu'il y avait autour de la cerise ?
Alors, à ma connaissance, non, bon, malheureusement. Mais il va falloir creuser. Mais en effet, tous ces patrimoines culinaires fruitiers ont donné souvent, parfois, l'occasion de faire la fête.
Et c'est ça.
Et quel événement festif, comme la fête de la crêpe à Gourin, mais plein d'autres.
Et Thibaut Thierry, le parc a un label de qualité spécifique pour l'alimentation ou c'est la marque Valeur Parc, c'est un peu...
Alors c'est la marque Valeur Parc notamment qu'on peut dédier sur des filières agricoles. On a fait le choix de faire un zoom sur la viande à l'herbe, la viande produite à l'herbe. Quelque part, c'est la tradition des systèmes herbagers aussi qu'on met en avant dans dans cette marque, avec aussi vraiment l'approche de l'éleveur au plus près des consommateurs et puis un produit de qualité. Donc aujourd'hui, voilà, elle n'est déployée sur la partie alimentaire que sur les systèmes herbagers, que ce soit bovin, mais aussi ovin, puisqu'on a aussi une tradition récente, mais de transhumance, de pâturage dans les landes, etc.
Le parc participe aussi aux journées du patrimoine. Alors on a une minute et demie pour mentionner ce qui est prévu ce week-end ?
Oui, alors ce week-end, on vous attend une fois que vous avez mangé un pastéo.
Ou voilà. Au fou.
Voilà, on vous attend le dimanche 17 septembre sur le domaine de Ménesmeur où on aura une journée consacrée à la découverte ou à la redécouverte des patrimoines naturels avec plusieurs animations qui seront proposées à la fois pour découvrir la biodiversité domestique aussi, donc au travers des races locales, le dimanche matin à partir de 11h. Et puis l'après-midi, un focus sur les landes et les tourbières et sur le bocage et la forêt sur l'après-midi. Et puis on invitera tous les visiteurs à participer et à écouter et à consommer aussi.
Ce sera un goûter en même
temps. Un goûter conférence où on fera notamment la restitution de l'ensemble de nos démarches de concertation sur la charte. Donc une restitution conviviale voilà, pendant le goûter. Et puis on aura la chance aussi d'avoir deux intervenants qui sont deux scientifiques. Madame Tréguier qui est au GIEC breton et puis Monsieur Tandéo,
voilà, tout à fait. Pierre Tandéo, ouais,
et Pierre Tandéo. Donc deux scientifiques qui pourront nous apporter un éclairage à la fois sur les questions climatiques mais aussi sur la prise en compte de la biodiversité.
Voilà. Ce sera à 16h à Ménesmeur. Donc tout ça a lieu dimanche à Anvec. On va vous remercier tous les trois, puis on vous retrouvera bientôt sur tout le parc pour parler charte. Et vous pouvez réécouter cette émission sur le tout nouveau site internet de Radio Évasion. Merci, au revoir.
Merci.
Merci. Merci.